France Inter, le 18-20.
Et si, comme nos ancêtres le faisaient, on vivait à l'étage de nos maisons? Et si elles étaient sur pilotis? Et si on ne comptait pas que sur les digues qui, après tout, sur un gros événement climatique, peuvent bien sauter? Si on adaptait la ville au risque climatique, bâtiments résilients, quartiers résilients? Est-ce que nous y sommes déjà? Puisqu'on ne peut pas éviter le risque, il faut l'intégrer. L'avons-nous déjà fait? C'est le thème de ce troisième volet des émissions consacrées aux écueils et aux solutions face aux dangers climatiques avant la COP24 qui s'ouvre, vous le savez, la semaine prochaine. Forcément, on le voit partout, plus d'épisodes climatiques violents, plus d'eau, plus d'inondations ou de risques d'inondations, plus de débordements. Quelles conséquences pour nous dans les campagnes, dans les villes, dans les zones littorales déjà? Et quelles solutions alors pour notre habitat? Quelle approche liée au risque? À quoi devons-nous réfléchir d'ores et déjà? Nouvelle maison ou nouvelle manière de vivre? Et si au fil de cette réflexion sur nos manières de vivre, on y gagnait aussi dans les périodes normales sans excès d'eau? Est-ce que les interdictions de construire sont des freins au fond à l'innovation et à l'inventivité? Est-ce que chez vous, dans votre ville littérale ou sujette aux pluies diluviennes, on est déjà en plein bouillonnement d'idées? Vos questions, vos témoignages font l'émission comme d'habitude. Et bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Patrick, c'est vous le premier, bienvenue.
Oui, bienvenue. Bonsoir à tous.
Mais bonsoir. Allez-y Patrick, on vous écoute.
Oui, écoutez, vous savez que sur le littoral audois, il existe une station balnéaire qui s'appelle Glissant-sur-Plage.
Bien sûr.
Plus de 50 ans, et les maisons sont surpilotées depuis plus de 50 ans. Donc je pense que déjà nos anciens avaient fait le choix de mettre les maisons hors eau. Et il faudrait que nos politiques et nos architectes fassent de même maintenant, quoi.
Et ben voilà, pour cette entame de téléphone sonne, Patrick, qui nous met directement dans le sujet. Merci beaucoup pour parler ensemble jusqu'à 20h, répondre à vos questions et partager vos témoignages. Magali Regezazit, je vous ai prononcé correctement ou pas?
Tout à fait.
Ben formidable. Bonsoir. Vous êtes géographe, vous êtes maîtresse de conférences à l'École normale supérieure. Et bonsoir Éric-Daniel Lacombe, vous êtes architecte spécialiste des risques naturels et des constructions en zone inondable. On va commencer avec vous, Éric-Daniel Lacombe. Il a raison, Patrick. D'autres ont compris bien avant. Et même avant même qu'on parle de réchauffement climatique au fond d'ailleurs et de dérèglement climatique.
Il a raison Patrick, c'est-à-dire qu'effectivement on est là, l'endroit dont il parle, au bord de la Méditerranée, pas très loin de Narbonne, j'y étais encore cet été. Et c'est vrai que quand les pilotis sont là, l'eau passe. Et pour avoir beaucoup lu les ouvrages de Magali Regeza, l'eau passe, c'est déjà un énorme progrès par rapport à la digue, où on ne voit plus l'eau, et quand elle déborde, elle devient dangereuse, voire mortelle, comme à la Nouvelle-Orléans ou en Vendée. Mais si on est trop haut par rapport à l'eau, c'est pour ça que je ne ferai pas le tout pilotis, c'est qu'on risque aussi de faire des bêtises. C'est-à-dire qu'on risque de se dissocier de l'élément sensible et de penser qu'on peut construire n'importe où. Le danger, c'est comme les dalles, à un moment, on s'est coupé du sol, et quand on se coupe des éléments sensibles, on ne les comprend plus. Et je pense que sur cette réponse du pilotis, il n'y a pas que cette solution.
Alors, on va parler d'autres solutions, mais ça m'intéresse ce que vous dites à l'instant. Ça veut dire en gros que on peut continuer à construire là où on construit, quitte à ce qu'on construise mieux, mais pas sans oublier quand même où on est. En gros, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Quand vous parlez d'une innovation, l'innovation, il y a deux cas de figure. Quand j'ai construit, et je crois que c'est pour ça que vous m'invitez, un nouveau quartier à Romorantin, on a fait en sorte, il y a des endroits, il y a des pilotis, il y a des endroits où l'eau traverse le bâtiment, il y a des endroits où elle le contourne, parce qu'il faut calmer l'impétuosité de la rivière. Et il faut que les gens comprennent à quel moment ils restent, à quel moment ils évacuent, à quel moment ils vont à l'abri. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est cette tension entre un abri étanche et un ouvert qui fait comprendre le monde qui n'arrête pas de changer. Et cette chose-là va devenir permanente. Donc, quand on s'était vu il y a 3 semaines, je revenais de l'Aude. Mais la
c'est
question
un peu plus de 3 semaines, mais pardon, c'était après les inondations, voilà, mais qu'importe.
La question que j'aurais envie de poser, c'est ça va. Et d'ailleurs, une fois que j'avais fini ce quartier neuf, on m'a dit, Éric, c'est trop facile. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'ancien? Ça veut dire que les maisons qui sont dans des endroits où elles ne devraient pas être, on ne va pas pouvoir les remonter de 3 mètres. Et vraiment, je continue à penser que si on les remonte toujours de 3 mètres, eh bien, vous avez fait une très belle émission hier soir. On va être tellement étanche. Alors c'est vrai, hier soir, vous étiez sur la thermique et l'isolation. Et l'architecte s'est pointé à la fin en disant, n'oubliez pas les architectes. On est tellement étanche qu'on risque d'oublier le vent. l'air, l'eau, le feu, si je pense à la Californie. Donc il faut faire les deux, et je dirais un peu plus loin comment on peut s'y prendre.
Et on en parlera ensemble évidemment. Magali Reguedzazit, l'idée c'est de trouver le juste milieu en fait au fond, c'est-à-dire on peut se mettre à l'abri sans pour autant interdire un certain nombre d'endroits, ou peut-être qu'il faut en interdire d'ailleurs, vous nous le direz, mais ne pas oublier à quoi ressemble l'élément et quel est leur cours en fait, au sens propre du terme pour l'eau peut-être.
Tout à fait, c'est-à-dire ce qu'on oublie c'est que par le passé on vivait avec les risques, c'est-à-dire qu'on choisissait en fonction du territoire et de ses besoins, soit des localisations en hauteur, soit des constructions sur pilotis, mais n'oubliez pas le risque. Le problème aujourd'hui, c'est que la solution technique, elle est là pour finalement rendre le confort et masquer le fait qu'il y a du risque. Donc on oublie que c'est un risque. Mais que ça soit la digue, que ça soit le pilotis, que ça soit le barrage, ça ne garantira jamais une sécurité absolue. Ça sert simplement à accompagner les populations pour leur permettre effectivement d'habiter ces territoires. Et puis derrière, il y a aussi une question jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement, il va falloir dire on n'urbanise pas, on n'occupe pas, parce que c'est trop dangereux. Il y en a d'autres, on peut le faire. Et là, il faut se poser la question des coûts de la sécurité. Ça, on ne peut pas avoir une solution unique pour l'ensemble du territoire. Et ça, les sociétés du passé l'avaient très bien compris. Simplement, on n'était pas du tout sur les mêmes échelles d'aménagement.
Alors, il y a des choses qu'on a fini par comprendre, qu'on a commencé à comprendre. Je pense à ce qui s'est passé après la faute sur mer, par exemple. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a plus reconstruit du tout. Au train où vont les choses, on ne reconstruira plus. Est-ce que ces zones-là, par exemple, sont typiquement des endroits où, en effet, c'était une erreur, il ne fallait pas y aller, il ne fallait pas construire? Ou est-ce qu'on peut encore y réfléchir? C'est quoi les endroits dont on sait aujourd'hui que non, ça c'est un non ferme et massif, on n'essaye même pas, y compris avec quelque chose de très innovant?
Alors, il y a deux types d'endroits qui posent vraiment problème. D'abord, c'est ce qu'on appelle les mineurs des fleuves. On continue parfois encore à mettre des bâtiments vraiment dans les chenaux d'écoulement ou vraiment à proximité. Ça, c'est très dangereux, surtout lorsqu'on a des submersion rapide. Le problème, c'est pas tant quand on a des montées lentes, c'est vraiment quand on a des vagues déferlantes, comme on a vu, où là, c'est vraiment compliqué. On a un deuxième problème, qui, on a parlé des littoraux, c'est qu'on a, on sait que à l'avenir, l'eau va s'élever, le niveau de la mer va s'élever, et donc on a des littoraux qui sont particulièrement menacés par la remontée du niveau marin. Et là, la question, c'est que si on occupe ces zones, on sait que de toute façon, dans un temps plus ou moins lointain, ces zones, elles vont être soumises à des risques qui vont augmenter. Donc, il y a vraiment tout un travail qui demande de penser le court terme et le long terme. Après, il faut aussi renverser la perspective. Pour beaucoup de territoires, le fait de ne pas urbaniser ou de ne pas occuper, c'est dramatique, parce que ça crée d'autres problèmes sociaux, économiques, mais aussi environnementaux. La faute sur mer, c'est un cas très intéressant, la faute sur mer, parce que la faute sur mer, les territoires de Vendée, ce sont des marais maritimes qui ont été occupés depuis des centaines d'années. Simplement, ils n'étaient pas occupés de la façon dont on les a occupés à la faute sur mer. Et quand on a vu l'après Xynthia, pour certaines personnes, ça a été un traumatisme terrible. La catastrophe, mais aussi cette après-catastrophe où on les a évacués, on leur a demandé de partir, ils ont été expropriés, il y a eu énormément de conflits.
Ils ne sont jamais revenus.
Certaines personnes voulaient revenir. Ça frappe toujours. Quand on travaille sur les catastrophes, on se dit, enfin, pourquoi les gens veulent absolument aller s'installer là? Mais parce que pour certains, c'est la maison du grand-père, de la grand-mère. Il y a un lien affectif, c'est votre maison, c'est vos souvenirs. Et donc là aussi, il ne s'agit pas de déplacer des gens sur une carte, mais de penser que chaque personne, elle a un lien affectif à ce territoire, et que donc on ne peut pas arriver avec des solutions toute faite, imposée, mais que derrière, en revanche, on a besoin d'avoir un débat sur où est-ce qu'on urbanise, pourquoi, alors urbaniser ou aménager, et quels sont les coûts de la sécurité et qui va les payer. Après tout, on peut très bien dire, eh bien, il y a des territoires qu'on va évacuer 3 ou 4 fois dans l'année. Quand il y a une alerte orange, on enlève les gens. Peut-être que vous n'avez pas envie de vivre comme ça, mais peut-être aussi que oui, il y aura du dommage matériel, ça c'est très clair. Ben, derrière, on va provisionner des fonds, on va trouver d'autres mécanismes d'indemnisation. C'est d'autres modèles qui sont d'ailleurs, qui existent dans d'autres pays. Simplement, voilà, il n'y a pas de solution toute faite et de solution miracle, malheureusement.
Il n'y a pas de solution miracle, Éric Daniel Lacombe. En effet, il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on dit aux habitants quand vous refaites, par exemple, tout un quartier, je pense à Romorantin ou ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux gens, au fond, en quoi on leur dit qu'ils vivront mieux, pas seulement parce qu'ils sont à l'abri de l'eau, mais j'imagine qu'il y a aussi le plus que vous apportez derrière. C'est pas que l'eau, en fait, qu'on leur dit.
Étonnamment, quand on a eu l'occasion de dessiner Romorantin, on avait fait un premier dessin tel que je les faisais depuis 30 ans. Et puis tout d'un coup, l'État, à juste titre, nous a dit « Vous êtes sympathique, mais vous avez oublié simplement 1,20 m d'eau qui pourrait arriver dans ce quartier. » Et l'État a pris en plus une précaution. À l'époque, on réfléchissait au principe de précaution. Ils ont rajouté 30 cm. Ça fait quand même 1,50 m, c'est-à-dire la moitié d'un étage. Et donc, on a revu notre copie, comme on dit. Et ça, c'est un des problèmes que j'aimerais soulever, c'est-à-dire avec qui on revoit sa copie. après l'Aude, pour revenir là-dessus, j'ai vu le sénateur. Mais le sénateur m'a dit, le sénateur de l'Aude, Roland Courteau, il m'a dit, mais c'est pas avec moi qu'on va revoir ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être pas avec l'État qui est un peu loin, bien que tout ce qu'il a fait pour énoncer des règles, pour sauver la vie des gens, était exactement ce qui s'est passé. Donc, avec qui on va jouer cette scène d'acteur? Et en fait, c'est ça qu'on a inventé à Romorantin, c'est qu'on a inventé un lieu de théâtre avec des acteurs locaux, intermédiaires, les gens du bassin versant, avec qui on a pu raisonner à ce que serait l'arrivée de la catastrophe. En même temps, on a fait un dessin qui, quand les jours sont beaux, c'est bien plus intéressant parce que on est au bord de la rivière, on profite des jardins, on découvre des plantes aquatiques, mais on sait que pour chacun, la maison n'est pas pareille que d'habitude parce qu'on peut se mettre à l'abri comme on peut se mettre dans la nature.
Mais alors précisément, avec qui vous parlez en fait? Votre interlocuteur privilégié, qui c'est et à quel moment on parle à celui qui va l'habiter cette maison-là? Ça arrive à quel moment ça?
Bien, comme c'est toujours très lent en fait, quoi qu'on dise, et ça oui. C'est un gros progrès. Ces situations, soit de reconstruction, soit de construction, dans ces résiliences-là, je reprends le terme de Magali, c'est plus lent qu'un quartier normal où vous faites un dessin et vous le construisez. Il faut un maire un peu costaud, avec des épaules, c'est ce qu'on avait... À Romo, il faut des services de l'État qui sont prêts à jouer le jeu. Je dis que c'est un jeu créatif et inventif.
Mais le maire important. Un peu costaud, pardon, parce qu'on a une question la mairie. Tiens, c'est la question d'Hervé. Ben tiens, bougez pas. Allez, bonsoir, allons-y. Hervé.
Oui, bonsoir.
Puisque vous aussi, vous êtes architecte et vous êtes dans le sujet, allez-y.
Tout à fait. Moi, je voulais savoir ce que pense mon confrère qui est sur le plateau et puis peut-être les intervenants de la capacité à limiter le pouvoir des maires en termes d'autorisation d'urbanisme. Parce que moi, dans la pratique de mon métier, je suis souvent confronté à des choix que je dois penser qui sont le bon sens et qui se heurtent souvent au pouvoir du maire qui est là en termes de délivrance des permis de construire et qui s'oppose souvent à la mise en place de solutions qui sont les solutions du bon sens, intelligentes, pour prendre en compte des problèmes environnementaux.
Et dans quel sens, Hervé? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire plus si on vous demande de faire moins, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, j'imagine bien dans quel sens ça marche en général, parce que c'est une question d'argent derrière, mais non, en général, la frustration pour vous, c'est quoi en fait?
La frustration, c'est que les contraintes que vous évoquez de l'habilité nécessitent souvent parfois des formes urbaines qui ne correspondent pas à ce que le maire a envie de voir. Et donc, quelque part, on a une opposition qui est esthétique, hein, purement esthétique, parce que on veut plaire à son électorat, et je trouve que c'est très désagréable. C'est pas une frustration personnelle, parce qu'en gros, on contredit ma capacité à créer, on contredit ma capacité à produire une solution intelligente. Voilà.
Merci pour ce témoignage, Hervé, qui complète ce que vous étiez en train de dire, Éric-Daniel Lacombe. Quand vous dites qu'il faut un maire qui a des épaules,
costaud,
en fait, c'est ça que ça
costaud,
veut dire.
Ça veut dire un maire qui est comme les abris qu'on construit, qui est à moitié ouvert et à moitié fermé. C'est-à-dire que le maire, il voulait construire 100%, lui a dit, et l'État lui a dit, vous construirez pas plus 20% de la surface de votre ancienne usine. Et il a accepté 20%, c'était mieux pour relever le défi économique de cette situation. L'État voulait pas de creux et de bosses sur le territoire, ce qu'on appelle pas de mouvement de terre. Et finalement, ils l'ont accepté parce que à cet endroit-là, comme ça vient d'être dit, une rivière en crue lente n'est pas un torrent de montagne qui descend très vite. Donc il y a des situations qui sont à chaque fois tellement singulières qu'on peut inventer des choses tout à fait innovantes.
Magali Rizazit, est-ce qu'on n'écoute pas assez les architectes et aussi les géographes au fond, c'est-à-dire le dessin de la maison, les avantages de la maison comme ça, le terrain, qu'est-ce qu'il y passe, comment ça marche?
Alors globalement, on s'écoute pas assez tous, c'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup à travailler sur le sujet, mais finalement, on se rend compte que ces opérations d'aménagement, et c'est pas propre aux zones inondables, il manque quand même encore de débats publics, de participation, etc. La remarque de votre auditeur, elle est très intéressante, parce qu'en fait, on fait peser souvent sur les maires la responsabilité qui est réelle. En même temps, faut pas confondre le particulier qui va construire sa maison sur une parcelle et qui va, surtout dans les petites communes, faire pression sur l'élu, parce que effectivement, il y a une proximité, et puis la grosse opération d'aménagement qui se fait en zone inondable, alors même qu'on sait que c'est dangereux, mais parce qu'il faut obéir à d'autres contraintes. Donc là aussi, on sombre très vite dans la caricature, et le problème de la caricature et de la polémique, c'est que ça empêche tout débat et ça empêche d'avancer. C'est des questions quand même qui sont sur le tapis depuis plus de 40 ans. Je veux dire, c'est pas quelque chose de neuf. On découvre aujourd'hui que l'urbanisation, c'est dangereux pour le risque. Ça fait 40 ans qu'on le dit, ça fait 40 ans qu'on urbanise en zone inondable. Et aujourd'hui, le problème, c'est même plus de savoir ce qu'on va urbaniser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des héritages, parce qu'ils sont là et qu'on peut pas déménager. Je rappelle quand même, un Français sur quatre en France vit dans une zone inondable. On ne va pas déménager un Français sur quatre et on ne peut pas effectivement relever les planchers de toutes les maisons qui sont en zone inondable. Donc derrière, il y a vraiment un travail pour se dire effectivement comment on construit les conditions à un moment donné, d'un débat public éclairé, où on est dans des responsabilités et des coûts qui sont clairs, qui sont publics, et où on tranche avec des choix. Et ça, pour l'instant, en France, ça n'existe pas.
Et les questions, justement, de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, etc., est-ce qu'au fond, ça vous aide, en fait, à pouvoir mettre des choses réellement en face? Est-ce que des épisodes cévenols successifs, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous parlez mieux aux mairies, aux collectivités locales qui savent un peu mieux de quoi on parle aujourd'hui?
Alors oui et non. Oui, parce que dans beaucoup de cas, ça permet effectivement de sensibiliser et on voit aussi une nouvelle génération d'élus qui arrive et qui est beaucoup plus enclin et puis il y a les populations derrière. Maintenant, il faut faire très attention parce que le problème, c'est qu'on n'est pas capable, nous, en tant que scientifiques, de faire le lien entre tel événement et le changement climatique. Du coup, dès qu'on le fait, on ouvre la brèche à tous les climato-sceptiques du coin qui vont nous dire « Ah, mais attention, machin ». Donc, ça pose un premier problème. Le deuxième problème, c'est que moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un changement climatique pour être déjà dans une situation qui est extrêmement compliquée sur les territoires. Si demain, en plus, on rajoute le changement climatique, on se retrouve dans une situation où nos sociétés ne sont pas capables, à l'heure actuelle, de faire face et de s'adapter, parce que les changements vont être tellement rapides et tellement brutaux, et les vulnérabilités sont déjà tellement importantes, et les pesanteurs et les inerties sont déjà tellement là, qu'en fait, on va avoir un problème d'adaptation. Et le problème actuellement du changement climatique, c'est que ça sert aussi de repoussoir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le délai. Ah ben, c'est pas pour tout de suite, on a le temps de voir venir, et donc on se remet un coup sur le débat, et d'un côté la transition, l'adaptation et la résilience, qui sont très intéressants, parce que ça permet de remobiliser les acteurs, ça permet de remettre du positif, mais en même temps, ça fait traîner.
Ou pas d'ailleurs, hein, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ou pas aussi quand même.
Pas. Et donc derrière, on recristallise les oppositions, on remet des oppositions. Voilà. Le problème quand on a urbanisé, quand on a mis des maisons de retraite, des écoles, des crèches, dans un lit majeur ou un lit mineur, c'est maintenant et tout de suite. C'est comment on informe, comment on alerte, comment on déplace, comment on crée une gestion de crise pertinente, comment on prépare les populations, les élus, les acteurs du territoire à faire face en cas de catastrophe. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'il n'y ait plus de morts à la fin.
Éric Daniel Lacombe, je vous entendais réagir.
Oui, plus de morts et moins de dégâts.
Et moins de dégâts.
L'affaire de...
Et moins de dégâts, ça veut dire moins de coûts d'assurance. Mais
oui,
ça veut dire
sûr. Mais, Fabienne, sur Romorantin, le reste du département a pris 900 millions de dégâts. On peut toujours parler des chiffres. Hier, on était avec encore... Je reviens sur ce qu'on appelle tous en ce moment des factures. Tous les assureurs appellent le bureau. On sait maintenant, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'une maison sur deux ne sera plus assurée, inondation ou incendie. Et en France, c'est en train... d'arriver. Donc cette résilience qui en fait emmène vers une réduction de la vulnérabilité et qui d'une certaine manière permet de profiter mieux, je trouve, du rapport au milieu habité, y compris vers la santé du vivant, les animaux, la vie ordinaire. Jamais on a fait un quartier aussi accroché au sol qu'à cet endroit-là. Sur la deuxième chose, évidemment, je suis architecte, donc c'est par le concret qu'on construit, nous, une dimension théorique. Il faut se battre, non pas à faire n'importe quoi, et les services de l'État, eux, sont bien, mais il faut se battre pour continuer à faire des expériences. Et donc, en ce moment, sur une autre situation, on transforme un bâtiment public, c'est une maison des jeunes, qui a été frappée de catastrophe, sur lequel le maire, par exemple, voulait mettre 2 millions de travaux pour la remettre en état, ce qui est toujours la tentation d'une maison, on la remet en état, et on a gagné le concours parce qu'on a dit, mais on va pas la remettre en état comme elle était avant. Et cette maison change complètement. Ce qui était au rez-de-chaussée passe à l'étage. Ce qui était à l'étage devient une extension dans le toit. Ce qui était chauffé peut accepter d'être dans une activité d'été. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, ça mobilise tellement les lieux qu'on est en train de faire des opérations presque test et pédagogiques pour que ça donne des envies aux maisons de se métamorphoser autrement.
À la fois, c'est terrible ce que vous dites, Éric Daniel Lacombe, parce que ça veut dire que vous avez besoin de la catastrophe au fond pour pouvoir avancer, en fait. Je vois Magali Regazza qui dit oui avec la tête.
Oui, c'est dramatique, mais on voit que les pays, malheureusement, c'est assez dramatique, mais là où on avance, c'est malheureusement parce qu'on a eu des très grandes catastrophes. Des choses qui ont vraiment marqué l'opinion. Enfin, je rappelle quand même qu'on a eu en 2017... des ouragans sur les îles du Nord. On a un ouragan de catégorie 5 qui arrive sur Saint-Martin, on a 11 morts. On a un orage dans l'Orbiel, on a 11 morts. Il y a quand même là quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, ces morts-là, étaient-ils évitables ou pas? C'est cette question-là. Et finalement, cette récurrence des événements qui est dramatique pour les victimes, on s'y habitue. Et donc derrière, ce n'est pas une priorité. Et donc derrière, on retombe sur ce que dit Eric, c'est-à-dire cette inertie, on revient à l'ancienne, on bricole, on fait avec et on n'avance pas.
Eh bien, allons là justement où les pluies diluviennes sont quelque chose d'extrêmement fréquent. Bonsoir Sylvain, vous êtes en Guyane.
Oui, bonsoir à tous. Voilà, je vous appelle de la Guyane française, où ça fait 25 ans que je vis. Et en termes de pluie, eh bien, on est garni, hein, on est vraiment verni puisqu'on est en pleine Amazonie française. Mmh. Et donc, on est habitué à ce genre de phénomène, si vous voulez. On n'a pas d'ouragan, certes, mais beaucoup de trompes d'eau qui s'évacuent d'une manière naturelle puisque la forêt sert d'éponge ainsi que les marécages. Et nous avons des constructions qui sont vraiment adaptées, si vous voulez, sur pilotis la plupart. Et les constructions récentes, effectivement, c'est elles qui posent problème aujourd'hui quand il y a des inondations. Mais les anciens avaient raison, ils savaient regarder et raisonner. Et je voulais juste apporter ce témoignage parce que nous avons beaucoup moins d'urbanisation donc sur la Guyane française. Et c'est ce qui est, pour mon sens, aussi une grande responsabilité de ces catastrophes qui arrivent puisqu'on urbanise à outrance, on canalise l'eau, on va absolument l'emmener à un endroit alors que l'eau doit s'évacuer d'une manière totalement naturelle. Et nous avons eu malheureusement en 2000 une colline qui s'est effondrée suite à des sources qui avaient été bouchées et qui n'ont pas pu s'évacuer et qui ont fait quelques morts aussi. Voilà, c'était juste un petit témoignage, mais je pense que les architectes et tous ceux qui tournent autour du bâtiment devraient jeter un petit peu des yeux à l'extérieur dans ces pays où beaucoup d'eau passe, etc., pour prendre des exemples aussi peut-être.
Merci beaucoup Sylvain pour ce coup de fil, merci pour ce témoignage. C'est fou Magali Rigetzazit ce que raconte Sylvain, parce que là pour le coup, là oui, on sait ce que c'est que la pluie. Oui. On fait quand même des erreurs qui sont celles que nous faisons nous ici, alors qu'on en a beaucoup moins, c'est quand même terrible.
Mais quelqu'un qui vit dans le sud de la France, il connaît la pluie, je veux dire l'orage méditerranéen, on le connaît, enfin voilà, on sait quand il arrive, on sait... Alors il y a plusieurs choses dans le témoignage. D'abord, on n'a pas du tout les mêmes contextes, effectivement, un contexte tropical, un contexte méditerranéen, on n'est pas exactement dans les mêmes héritages. D'autre part aussi, il y a une question qui est très importante, c'est la question des mobilités, parce que les Français bougent sur le territoire. Et on voit aussi qu'en fonction des territoires, eh bien, on va avoir des populations qui vont venir s'installer, on n'a pas les mêmes profils démographiques. Quand vous êtes par exemple dans des territoires qui sont marqués par le vieillissement, eh bien, les gens vont avoir tendance à se dire, si je construis ma maison avec un étage, ça va être compliqué, je construis ma maison, je suis en début de retraite, à la fin, donc on va faire du plein pied. On a d'autres endroits au contraire où c'est plutôt des jeunes plus dynamiques, tout ça. Donc là, on va plutôt avoir la maison à étage avec le jardin. En fonction là aussi des profils démographiques des endroits, on va avoir d'abord un besoin différent et puis surtout la connaissance du milieu n'est pas la même. Quand vous avez vécu toute votre vie dans le nord de la France et que vous arrivez sur la Côte d'Azur, vous avez l'image des palmiers, du ciel bleu, etc. La première fois que vous voyez un orage méditerranéen, c'est assez surprenant. Et vous mettez un Marseillais ou un Niçois à Paris la première fois qu'il voit de la neige ou à Dijon, il est surpris. Donc vous voyez, on est dans des sociétés là aussi où le fait de bouger, et on bouge de plus en plus, fait qu'à un moment donné, les mobilités résidentielles nous font perdre la connaissance aussi de ce territoire et de gestes qui sont élémentaires. Moi, je viens du sud de la France, on ne sort pas quand il y a un orage. Ça ne nous vient pas à l'esprit. Voilà, c'est un truc. Par contre, moi, la première fois où je suis arrivée à Paris, le crachin, j'avoue, je ne savais pas comment on faisait avec. Et ça paraît trivial comme idée. Mais la connaissance aussi de ce territoire qui est perdue parce que, évidemment, dans les territoires urbains, comme tout est artificialisé, comme le dit Eric, on ne voit plus l'eau circuler, on ne voit plus ce temps des saisons, on ne voit plus. Et alors là-dessus, le changement climatique va encore en rajouter une petite couche, parce qu'un des effets probables du changement climatique en France, c'est à la fois l'excès de ces abats d'eau, mais aussi beaucoup de sécheresse et beaucoup de ce qu'on appelle d'étiage. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on va se retrouver dans des territoires qui vont faire face à un manque d'eau. Comment nous, on va arriver à sensibiliser à des inondations qui vont peut-être devenir plus fortes, mais aussi plus rare. On a là tout un processus de mémoire, de connaissance qui parle vraiment de l'habitant, de qui habite, de qui vit, de qui pratique, qui est assez inquiétant et qui demande là aussi peut-être de revoir un peu nos logiciels pour se dire, ce qu'on disait tout à l'heure, avec qui on la fabrique cette ville, avec qui on fabrique ce territoire. Il n'y a pas que la ville d'ailleurs, il y a les territoires ruraux. Les déprises, les processus de déprise rurale, de déprise agricole font aussi que les territoires ruraux sont parfois dans des situations très compliquées du point de vue des risques, parce qu'ils sont pas dans le radar. Il y a peu de monde, ils sont pas prioritaires. Il y a des populations qui peuvent être en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait là aussi pour ce territoire? Donc ça pose vraiment des enjeux de justice environnementale et sociale qui sont vraiment des problèmes qui devraient être au cœur des débats publics. Il n'y a aucune élection à ma connaissance qui ne se fait sur la question des risques naturels.
Éric Daniel Lacombe, vous êtes d'accord avec ce que dit, je vous voyais approuver aussi avec ce que dit Magali. Éric Guedza, c'est là-dessus que vous battez, en fait, tout le temps, visiblement.
On se bat, et bien que vous m'avez collé quand même tout à l'heure les catastrophes, ça reste très motivant, et cette co-invention, elle se fera pas sans les populations. Ce qui évitera le petit épisode tragique à Trèbes, où l'habitant demande au maire pourquoi il n'est pas venu le chercher à 4 heures du matin, et le maire de Trèbes se retournant vers le Premier ministre pour lui dire pourquoi vous, l'État, vous m'avez pas protégé. Donc, cette sensibilisation à la population, elle est évidente. Cette transformation créatrice, elle est nécessaire parce que, même si je respecte les anciens, il y a plein d'endroits des anciens qui ne seront pas suffisants pour affronter les métamorphoses nouvelles de demain. Il y aura plus d'eau, il y aura plus de vent, il y aura plus de sécheresse. Les gens de la Californie, pour l'instant, sont quand même dans un désarroi qui intéresse pas grand monde sur ces questions-là. Ils sont parqués sur des parkings qui, comme il va pleuvoir beaucoup, ça a commencé, vont avoir des ruissellements épouvantables. Donc, quand vous dites on se bat, je suis en train de mener une grande étude qui est un peu originale, c'est l'évaluation de la vulnérabilité à partir des campings. Ça fait 6 mois que je passe ma vie sur les campings, parce que c'est une population qui est sensible à la nature. Mmh. Elle vient au camping pour aller voir la mer, pour aller se baigner dans le torrent, pour aller chercher la rivière, pas qui déborde, mais la rivière du canoë.
Mais quand vous parliez de solutions inventives, est-ce que ça veut dire que on a trop de culture de prévention, finalement, qu'on est finalement trop frileux à certains égards? Alors peut-être que parfois, on en fait trop, on va se nicher effectivement dans un lit de rivière dans lequel on ne devrait pas être, mais à côté de ça, on a une culture de la prévention qui est beaucoup trop importante et on n'a plus envie d'être inventif, on n'ose plus.
Alors, on n'est pas inventif, mais en même temps, il faut forcer la prévention et l'invention, c'est les deux, je suis toujours les deux, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on comprend par où l'eau arrive et à quel moment et qu'on sait la déceler, c'est quand même, vous réglez 30% du problème. Si, dans un deuxième temps, je passe réellement ma vie à ça, vous comprenez par quel système d'évacuation vous pouvez fuir ou rester. Ce qui est quand même une question dans le cerveau. Il y a des endroits où on fuit et on meurt, il y a des endroits où on reste et on a la vie sauve. Ce qui évite quand même je continue.
Savoir par où on va sortir, les transports en voiture.
Fabienne, sur des logements sociaux où normalement la voiture elle est dans la maison, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, aujourd'hui on peut se poser la question, on a réussi au nom de l'inondation à la sortir de la maison. Les maisons elles-mêmes devaient être isolées, on a réussi à les regrouper pour les mettre sur des chemins d'évacuation, y compris sur la thermique, des maisons qui se tiennent chaud, des voitures...
Des gens à Mandelieu sont morts parce qu'ils allaient chercher leur voiture.
Des passerelles qui vous permettent de comprendre sont des transformations absolument exemplaires. Et dernier point sur les campings, c'est des habitats. Alors Michel Lussault, un autre géographe que Magali, dit même que c'est un sujet qui pourrait inventer l'habitat de demain, l'habitat anthropocène, ce contact, cette bagarre entre l'homme et la nature, sont des habitats qui sont capables d'être légers, de se replier, d'être démontés. On a des pistes tout à fait intéressantes pour la ville de demain.
Nathalie, bonsoir.
Oui, bonsoir, je vous appelle de Montpellier.
Allez-y, Nathalie.
Oui, alors, moi, d'un point de vue général, en tant que citoyenne, je trouve que nos élus, ils sont vraiment arriérés sur ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Ils nous sortent des trucs qu'on faisait il y a 20 ans. Et ça, franchement, ça m'agace.
Par exemple, vous pensez à quoi, Nathalie?
Alors, je pense, par exemple, j'ai créé une association pour défendre le parc Montcalm. C'est un espace qui est boisé, qui a des beaux arbres. On l'a hérité de terrains militaires à Montpellier. Et le projet de la ville, c'est de construire sur 3 hectares en bordure d'un ruisseau qui déborde complètement quand il pleut. Ils vont construire là 600 logements sur pilotis, en zone inondable. Alors moi, je voudrais bien que vous me donniez un peu la clé, le tuyau, pour faire capoter ce projet, parce que à Montpellier, on a besoin d'avoir un parc. 23 hectares, c'est pas hyper grand pour la grande ville de Montpellier. À Londres ou à Lyon, c'est 200 ou 300, 400 hectares de parc. Donc 23 hectares pour une grande ville qui ne cesse de grandir et de construire à tire-larigot, c'est pas énorme. Et moi, je voudrais bien aussi pouvoir sauvegarder au maximum tous ces arbres qui sont un patrimoine vivant, pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Et je crois qu'on a énormément besoin d'arbres en ville. Et il faut vraiment s'en rendre compte aujourd'hui parce que l'été, quand on est sous les arbres dans ce parc-là, on est bien quand c'est la canicule.
Merci
beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'arguments qui font que je ne comprends pas les décisions de nos élus. Et je voudrais bien connaître la clé, connaître la petite chose pour vraiment les faire changer.
Alors, je ne sais pas s'il y a une clé, Nathalie, vous savez quoi ? Je suis pas sûre qu'il y ait une clé et qu'il soit valable en plus pour tous les élus d'une manière générale. Mais merci de votre témoignage. Et Magali Regazza, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut pas faire sans les habitants non plus.
Non, mais
à un moment.
Et alors, je crois que ce que dit votre auditrice est extrêmement intéressant parce que là aussi, il y a deux choses. D'abord, penser les inondations ou le risque indépendamment du réseau territoire, c'est absurde. C'est-à-dire que derrière, tout est lié. Effectivement, la question qui se pose, c'est quelle est la ville dans laquelle on veut vivre demain ? Est-ce que c'est une ville avec de l'eau, pas d'eau ? À la rigueur, on peut tout faire. Mmh. La question, c'est le coût qu'il y a derrière. Ça, c'est le premier point.
Enfin, le coût et le risque par rapport
et
à l'injonction à construire.
Mais enfin, à la rigueur, on peut. Je pousse jusqu'au bout. D'une certaine façon, on pourrait se dire, tant pis, on a des morts et alors ? Enfin, je veux dire, si on pousse la logique jusqu'au bout, parce que d'une certaine façon, c'est ça qui se passe. Jusqu'à quel seuil est-ce que c'est tolérable ? 10 morts par an, 50 morts par an ? Cet été, je vous rappelle qu'on a quand même eu une canicule où on nous a dit, il y a 1500 morts consécutifs à la canicule, c'est merveilleux, c'est 10 fois moins qu'en 2003. Et personne ne parle de catastrophe. 11 morts. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'opposer les victimes. Il s'agit à un moment donné de se dire dans quelle société on veut vivre. Et ça pose les questions de toute la semaine de vos émissions, c'est-à-dire les arbres, la nature. Est-ce qu'on veut des rats ? Est-ce qu'on veut des oiseaux ? Est-ce qu'on veut... Il y a ce premier problème. Le deuxième problème, c'est, et je reviens sur ce que disait Eric, je ne pense pas qu'on est dans une société de la prévention, je pense qu'on est dans une société de la sécurité. C'est-à-dire qu'on s'abrite derrière la solution technique et l'innovation pour penser que, c'est bon, vous êtes dans un territoire surpiloté, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, mais ça retarde, ça permet de protéger à un moment donné, mais c'est pas la panacée. C'est-à-dire que si sur vos pilotis, vous avez pas derrière un logement qui est capable d'être isolé thermiquement, d'avoir de l'eau, d'avoir des bouteilles, d'avoir un téléphone qui marche, d'avoir des choses, ça ne sert à rien. Et on est en train de nous faire le coup avec les pilotis et la résilience qu'on nous a fait avec les digues. La digue, c'est absolument, impérativement nécessaire, parce que ça permet de protéger. Simplement, vous n'êtes pas à l'abri derrière une digue. Vous êtes derrière une digue et il faut savoir que ça peut sauter et que donc à un moment donné, vous devrez évacuer. C'est pareil sur ces histoires de pilotis, etc. Si la solution technique, sous couvert d'innovation, de résilience ou de tout ce qu'on veut, sert à nouveau à occulter le risque, sert à nouveau à empêcher la participation des citoyennes et à empêcher de penser le projet urbain, alors c'est un grand bond en arrière. Très clairement, et on ne s'en sortira pas comme ça.
Et c'est ce que vous rappeliez, Éric Daniel Lacombe, c'est pas l'eau de l'inondation qui a tué les gens sur Katrina, au moment de Katrina, c'est la digue qui a sauté. Oui. C'est pas l'ouragan en soi qui est responsable en soi, c'est la digue qui a sauté derrière, ce qui est très parlant, et ce qui dit des choses. Moi, ça m'intéresse ce que disait effectivement Nathalie, la réponse de Magali Regazza à l'instant. Vous, l'architecte, par exemple, dans un cas comme celui-là, est-ce que vous avez votre mot à dire ou pas ?
Moi, j'ai pas la clé pour
parler. Est-ce que vous pouvez dire au maire, c'est pas une bonne idée là, cet endroit-là.
Évidemment, mais
quoi,
la clé,
c'est pas une bonne idée.
La clé que je proposerais, c'est de mettre. C'est pour ça que je crois à la co-invention, ce qui est assez étrange d'un architecte qui on nous a appris à inventer tout seul. Donc la co-invention ou l'invention partagée ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécialistes capables d'inventer. Mais ce que je dirais à cette dame, c'est que si moi c'est à ça que je passe ma vie, c'est à constituer le groupe avec lequel on va s'engueuler d'une certaine manière. Parce que si on parle inondation, il y a des gens autour de l'inondation, y compris dans l'endroit. Je suis allé à Montpellier il n'y a pas très longtemps, qui vous diront qu'il ne faut pas d'arbres, parce que si les arbres sont arrachés par l'eau, ils deviennent des embâcles, c'est-à-dire des obstacles pour les gens qui sont en dessous, et ils vont casser les écoles ou les choses comme ça. Donc, si à un endroit, on vous dit qu'il faut construire, à un autre endroit, il faut démolir, il va y avoir aussi une tension. Et il y a des tensions, y compris à l'intérieur des services de l'État. Les grandes bagarres qu'on a gagnées sur Romorantin, c'est quand vous aviez un ABF qui voulait garder une grande fraction de l'usine.
Un ABF, c'est quoi un ABF ?
Pardon, un architecte des bâtiments de France.
D'accord.
Parce qu'il voulait garder une grande partie du patrimoine et que les mêmes services de l'État lui ont dit on ne peut pas construire à plus de 20%. Mmh. Dans ce cas-là, ça voulait dire une démolition. Il va falloir aussi qu'on parle des démolitions. Donc, à un moment, on vous dit on ne peut pas faire de... Je vais essayer d'avoir des mots plus simples. On ne peut pas rajouter de la terre sur les terrains parce que ça devient de la boue quand il pleut. Mais en même temps, il faut creuser le sol pour conserver de l'eau pour de la rétention. Mmh. Vous opposez comme ça dans une réunion avec plus il y a de gens, plus il y a des conflits énoncés. Mmh. Soit du conflit, vous en faites la guerre. Soit du conflit, vous en faites l'invention. Et c'est vraiment une bonne clé, ça, quand même.
Didier, bienvenue. Vous êtes le dernier et on vous écoute. Soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Alors, je suis vraiment d'accord avec l'archi qui vient de s'exprimer. Moi, je suis instructeur en permis de construire et je voudrais simplement apporter un témoignage. Donc, j'ai entendu dans les divers témoignages et réflexions apportées lors de l'émission que les élus étaient effectivement porteurs de plein de responsabilités, y compris à la faute sur mer. Là-dessus, on va pas aborder le sujet. Néanmoins, en ce qui me concerne, dans la communauté de communes dans laquelle je travaille, dans le Nord Médoc, on fait toujours des propositions qui sont essentiellement dans certaines zones basées avec de la prévention par rapport au risque d'inondation. Là où je travaille, c'est effectivement un risque qui est réel, ainsi que le risque d'incendie de forêt pour certaines autres communes. Et les élus locaux suivent en général les propositions de décision qu'on fait. Je dis bien propositions de décision qu'on fait, puisque nous les faisons au plus près, pour reprendre un terme de Marine, au plus près des réglementations en vigueur. Donc voilà, donc l'urbanisme et l'architecture avec laquelle je trouve que c'est des gens qui sont aujourd'hui effectivement bridés, et là je déborde un petit peu de la question initiale, mais qui sont effectivement bridés à cause de la réglementation et des réglementations qui sont mises au niveau de l'État et qui sont ensuite obligatoirement applicables par les communes et les communautés de communes, on n'est pas toujours, libre, parce qu'on dépend de beaucoup d'instances. Voilà.
Merci beaucoup Didier pour ce témoignage. Vous vous sentez bridé, Daniel Lacombe ?
On n'a jamais été aussi libre et créatif qu'en ce moment, parce que la transformation de la conscience est réelle. Et c'est vrai que de repenser une maison à Trèbes encore, les dames qui sont mortes, elles étaient au rez-de-chaussée, elles avaient un étage. Donc, elles n'ont pas eu le temps dans la nuit de passer à l'étage, parce qu'elles ont été bousculées par l'eau au fond de leur chambre. Mais changer, c'est peut-être dire, je remonte toute ma vie principale à l'étage et je libère peut-être le rez-de-chaussée pour que l'eau passe plus facilement. Et c'est peut-être les petits-enfants, les gamins, les amis qui y vivront. Donc, le monde change et nous, on ne changerait pas. Enfin, c'est, voilà, je crois qu'on n'est pas du tout bridé et les services de l'État sont plutôt pas mal.
Puisqu'il nous reste très peu de temps, on lit aussi ici et là des choses qui semblent assez surréalistes. L'histoire des maisons flottantes, par exemple, est-ce que c'est complètement n'importe quoi ou est-ce que, oui, on réfléchit, on décide même des choses, on imagine, Magali Riedza?
Alors, c'est un laboratoire génial, ouais. En fait, parce que c'est ces sujets-là, ça, effectivement, il y a de l'innovation, de la création. Alors, on est presque dans l'utopie, hein. On est dans ces rêves, ces villes, on fait des villes flottantes, des villes sous-marines, il y a beaucoup d'innovation. La question aujourd'hui, c'est d'être déjà, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui existe?
Certes.
Et on peut rêver, mais avant de rêver, il faut quand même se demander qu'est-ce qu'on fait avec ce qui existe, parce que derrière, il y a quand même des enjeux très très forts d'inégalité, de gens aujourd'hui, enfin, c'est quand même des gens qui meurent à la fin. Et ça, je pense qu'il faut le dire, ça paraît, la catastrophe, elle est déconnectée du réel, pas que de l'eau.
Faisons avec ce qui existe pour l'instant. Merci beaucoup, merci pour vos nombreux appels. Comme d'habitude, demain, c'est ma mère, même endroit. Et vous savez, on parlera de ce que font nos voisins, en fait. Pourquoi certains de nos voisins sont nettement meilleurs que nous, peut-être aussi sur ces thèmes-là. Ce sera le quatrième téléphone sonne autour de ces mêmes sujets. Merci beaucoup.